Laudetur Jesus Christus.
Un témoignage rare de retour de la bande de Gaza, celui du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Le dépôt des candidatures pour la présidentielle est clos au Cameroun. 81 candidatures, c'est un record, dont celle du principal opposant à Paul Biya, Maurice Kanto. L'Allemagne entend relancer sa puissance industrielle. Le chancelier lance une opération séduction envers les grands patrons. Dans ce journal, nous irons également au Pakistan, les accusations de blasphème se multiplient. Nous l'entendrons sur fond d'escroquerie. La justice ouvre une enquête. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Cambodge, comment comprendre le sursaut militaire dans la monarchie khmère.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. L'armée israélienne étend ses opérations au sol à Gaza jusque dans le centre de l'enclave palestinienne. Et cela au moment où 25 pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie, appellent à la fin immédiate de la guerre. Hier, ce sont les locaux de l'OMS à Gaza qui ont été touchés. De nouvelles alertes sont lancées tous les jours sur la malnutrition des enfants ou le blocage de l'aide humanitaire par Israël. Mais les témoignages sur place sont rares et pour cause, l'État hébreu gère les entrées et les sorties de l'enclave palestinienne. Le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, a pu se rendre à Gaza. Une visite de 3 jours après l'attaque contre l'église de la Sainte Famille jeudi dernier. Il nous livre ses premières impressions.
Les images qui me restent par rapport aux fois précédentes sont celles des immenses étendues de tentes où les gens vivent dans des conditions d'extrême précarité. Et puis l'autre image, c'est celle de l'hôpital, des enfants mutilés à cause des bombardements. Je dois dire que cela me stupéfie toujours. Ces quelques centaines de chrétiens sont certes très protégés, mais ils ne sont pas exempts des mêmes problèmes que tous les autres. Manque de nourriture, ils ne voient pas de légumes depuis des mois, ils ne voient pas de viande, comme tous les autres en somme. Certains partiront sans aucun doute, mais la majorité restera. Ces gens ne savent pas où aller, mais ils ne veulent pas non plus partir, car ils ont leurs racines là-bas, ils ont leur maison là-bas, ou plutôt, ils y avaient leur maison. Et ils veulent reconstruire là-bas. Le pape a été très clair à ce sujet. Non au transfert de population. Nous ne comprenons pas les raisons de tout cela. Et comme le pape l'a dit à juste titre, tout cela n'est pas justifiable. Je tiens à clarifier une chose. Nous n'avons rien contre le monde juif et nous ne voulons absolument pas apparaître comme ceux qui s'opposent à la société israélienne et au judaïsme. Mais nous avons le devoir moral d'exprimer avec une clarté et une franchise absolue notre critique de la politique que ce gouvernement mène à Gaza.
Le patriarche latin de Jérusalem, joint par Antonella Palermo. Plus d'informations sur cette visite à Gaza sur notre site internet. Des civils peuls exécutés au Mali par les forces armées maliennes et leur allié, le groupe Wagner. C'est ce que révèle ce matin un rapport de l'ONG de défense des droits humains, HRW. L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner mènent ensemble des opérations contre des groupes armés islamistes dans la région. Mais dans ce cadre, ils ont exécuté depuis le début de l'année 12 civils peuls et fait disparaître 80 autres personnes. Au Cameroun, la présidentielle aura lieu le 12 octobre sur la ligne de départ Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, mais aussi 80 autres dossiers, dont celui de Maurice Kamto, le principal opposant. Le dépôt de dossier de candidature est clos depuis hier soir minuit. L'ELECAM, l'organe en charge de l'organisation de l'élection présidentielle, doit maintenant les analyser avant un passage par le Conseil constitutionnel d'ici 12 jours. Ce nombre de candidats est en tout cas un record. À Yaoundé, Eba et Songé.
81 dossiers ont été reçus, dont plusieurs visages familiers de la dernière élection présidentielle de 2018. Parmi eux, Paul Biya, le président sortant, cherche à décrocher un 8e mandat à 92 ans. Cependant, il devra faire face à une opposition interne avec la candidature de Léon Taylor Onana, un élu de son propre parti, le RDPC. Dans le camp de l'opposition, Maurice Kamto, ancien président du MRC, arrivé deuxième en 2018, tente sa chance sous la bannière du Manidem. Cabral Libi, qui avait également perdu en 2018, revient sous les couleurs du PCRN. En plus des figures connues, Elections Cameroun a enregistré 75 autres candidatures, parmi lesquelles celles de Bello Bouba Maïgari et Issa Tchirma Bakary qui ont récemment quitté l'alliance avec le parti au pouvoir. La prochaine étape pour Elecam sera l'examen de ces dossiers, une phase cruciale qui pourra entraîner des rejets ou des recours devant le Conseil constitutionnel. Les candidats validés doivent être annoncés dans un délai de 60 jours maximum avant le scrutin. Eba Isonge à Yaoundé pour Radio Vatican.
Le gouvernement congolais veut être optimiste. La RDC est proche de la paix, estime le ministre de l'Intérieur dans une déclaration cette nuit. Une réaction après l'accord de cessez-le-feu signé avec le groupe armé M23 au Qatar ce week-end. La déclaration de Doha pousse vers des négociations formelles en vue ensuite d'un accord de paix global. Une déclaration qui prévoit également une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État de l'Est de la RDC. Une fois cet accord signé, dans le Kivu, les lignes de front n'ont pas bougé depuis février et les violences se poursuivent encore entre le M23 et les milices pro-Kinshasa. C'était hier à Berlin. Le chancelier Friedrich Merz a reçu une quarantaine de grands patrons allemands prêts à investir 600 milliards d'euros dans le pays ces trois prochaines années. Une opération séduction pour le nouveau chancelier qui tente de redonner confiance aux Allemands et de montrer que l'Allemagne affaiblie économiquement est de retour au plus haut niveau. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Friedrich Merz, entouré d'une quarantaine de grands patrons allemands comme la Deutsche Bank, Rheinmetall, Siemens, BASF ou encore Volkswagen, la photo reflète les liens étroits qu'entretient le nouveau chancelier de droite avec les milieux économiques. Mais au-delà du cliché, ce sont surtout des promesses d'investissement que Friedrich Merz a récoltées hier lundi. Au total, ces grands patrons s'engagent à investir plus de 600 milliards d'euros d'ici 2028. La grande majorité de ces annonces ne sont pas nouvelles, mais une centaine de milliards concernent de nouveaux investissements en Allemagne. Une aubaine pour Friedrich Merz qui, en mai dernier, a pris la tête d'une Allemagne en récession pour la deuxième année de suite et qui pourrait le rester en 2025. Avec ces annonces et cette initiative appelée « Made in Germany », les grands patrons montrent donc leur confiance dans l'économie allemande et soutiennent les réformes lancées ou annoncées par le nouveau gouvernement, comme des réductions d'impôts et une baisse du coût de l'énergie. Mais pour certains, cette initiative est avant tout une opération de communication qui devra se concrétiser sur le terrain, une manière de sortir du pessimisme ambiant dans lequel une partie de la population se trouve depuis quelque temps. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Une nouvelle session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie débutera demain en Turquie, à Istanbul. Après l'échec de ceux tenus au printemps, les discussions auront d'abord lieu sur des échanges de prisonniers, puis sur une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. La prison de haute sécurité au Salvador, gérée avec les États-Unis, critiquée par le Venezuela après le rapatriement de 250 de ses citoyens. Caracas dénonce les tortures infligées et ouvre une enquête officielle contre le président salvadorien Nayib Bukele et d'autres membres du gouvernement. Invoquant une loi de 1798 sur les ennemis de l'étranger, les États-Unis avaient expulsé en mars sans procès ces 252 Vénézuéliens, les accusant de terrorisme. La justice pakistanaise ordonne au gouvernement de lancer une commission d'enquête autour de la loi du blasphème. Le nombre de cas a explosé ces dernières années sur fond d'escroquerie, un abus auquel les juges veulent mettre fin. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
L'arrêt de la haute cour d'Islamabad intervient alors que les affaires de blasphème explosent depuis 2 ans. La Commission nationale des droits de l'homme avait tiré la sonnette d'alarme dans un rapport l'année dernière. D'après ses recherches, 767 personnes étaient en prison à l'été 2024, 3 fois plus en un an. Depuis son durcissement dans les années 80, la loi du blasphème a toujours servi à des règlements de compte. Le nombre de personnes incarcérées dans ce genre d'affaires se comptait en dizaines. Le développement des réseaux sociaux a favorisé l'émergence d'un nouveau type d'escroquerie. Les victimes, de jeunes hommes, se retrouvent piégées et partagent des contenus blasphématoires alors qu'ils se lient d'amitié sur WhatsApp avec des femmes de leur âge. Arrêtés par des islamistes, ils sont ensuite interpellés par la police. Les voix dans la société civile qui réclamaient une réforme de la législation il y a une décennie se sont faites plus discrètes à cause des menaces venant de groupes islamistes radicaux. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Conserver la cathédrale pour l'éternité, le géant américain Microsoft va numériser Notre-Dame de Paris. Cela rendra possible une représentation virtuelle en 3D de la cathédrale, mais sera surtout un outil qui servira pour la restauration et la conservation au fil du temps. La résurgence aiguë d'un conflit frontalier séculaire entre la Thaïlande et le Cambodge en mai dernier est en train de redessiner la géographie militaire de la région. Le Premier ministre cambodgien Hun Manet annonçait en effet lundi dernier la mise en œuvre d'un service militaire obligatoire ainsi qu'une réforme substantielle de l'armée nationale. En réalité, une loi sur la conscription a été votée dans le pays il y a 20 ans en 2006 sans jamais être appliquée. Aujourd'hui, le régime de Phnom Penh souhaite pallier à ce retard et annonce aussi l'augmentation du budget de la défense, ainsi qu'une simplification du recrutement des soldats et la prise en compte de la lutte contre la cybercriminalité, fléau régional en Asie du Sud-Est. Sophie Boisseau-Durocher est maître de conférences à Sciences Po, chercheure à l'Asia Centre. Elle nous décrypte ce matin les causes politiques, économiques et bien sûr sécuritaires à ce sursaut militaire dans la monarchie khmère.
Ce qu'a annoncé le Premier ministre Hun Manet le 14 juillet, c'est que la loi de 2006 allait être appliquée à partir de 2026. Il a même d'ailleurs annoncé en même temps une modernisation profonde de l'armée en raison précisément de la résurgence de tensions qui constitue, selon Hun Manet, une leçon pour les Cambodgiens et une opportunité pour revoir, examiner, fixer nos objectifs pour réformer notre armée à l'avenir. Donc, au fond, ce que fait Hun Manet, c'est qu'il profite de l'exacerbation de ces tensions pour relancer une réforme de l'armée qui n'a jamais été appliquée pour deux raisons principales. En 2006, le pays était encore traumatisé par le conflit avec le Vietnam, qui était aussi un conflit intérieur. Et puis, d'autre part, l'économie du Cambodge avait besoin de cette force masculine, jeune et rare, en fait.
En quoi est-ce donc véritablement une rupture historique que d'instaurer cette conscription ?
D'une certaine façon, oui. Pour le Cambodge, certainement, à nouveau, au vu de son histoire récente, et il redeviendrait ainsi, je dirais, un pays normal. Mais c'est aussi un geste politique, il faut le replacer dans le contexte cambodgien. Hun Manet est Premier ministre depuis 2023, c'est un officier de formation dans l'armée de terre, il est général 4 étoiles, et c'est d'ailleurs, c'est intéressant, en uniforme, qu'il a annoncé cette mesure alors qu'il venait fêter les 32 ans d'une caserne au centre du pays. Et donc, si vous voulez, cette décision d'appliquer la conscription obligatoire est une décision personnelle qui le distingue, je dirais, de la période de son père, Hun Sen, qui lui a été Premier ministre pendant 30 ans.
Dans quel état diriez-vous que se trouve l'armée cambodgienne aujourd'hui et quelles ressources militaires détient le pays ?
Les ressources sont objectivement faibles, même si le budget de la défense ponctionne la plus grande part du budget national, avec 740 millions de dollars sur un budget d'environ 9 milliards de dollars. Les forces armées cambodgiennes comptent environ 200 000 membres, mais dans ces 200 000 membres, il faut inclure la composante de gendarmes qui est très importante, alors qu'en Thaïlande, on a une armée de l'ordre de 360 000 militaires en service actif. Donc, il y a une nécessité de renforcer cette armée cambodgienne en même temps qu'il y a une nécessité de la moderniser.
Quels sont les objectifs de cette nouvelle vision du corps militaire ?
L'ambition, c'est de défendre le territoire cambodgien et non pas d'attaquer les voisins. Cette modernisation ne se limite pas au renouvellement de l'équipement militaire, mais à nouveau de transformer l'état d'esprit de l'armée pour la préparer à des menaces non conventionnelles. On pense par exemple aux armes biologiques ou chimiques. On pense également aux catastrophes naturelles hein, qui sont nombreuses au Cambodge et où l'armée a un rôle essentiel. Et puis évidemment aux menaces en matière de cybercriminalité. Donc il y a véritablement, si vous voulez, une nouvelle vision qui est en train de se dessiner et qui vise en fait à repositionner l'armée cambodgienne comme un acteur central dans un environnement géopolitique qui est très incertain.
Voilà, interrogée par Delphine Allaire, Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Merci de votre écoute. L'information revient en direct de Rome tout à l'heure à 13h. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.